Merci à tous. Merci à ER Alsace de l'accueil et de l'organisation de cet événement. Donc le titre de la conférence, c'est « Comprendre le choc géopolitique mondial ». Donc pour comprendre la séquence dont nous sommes les contemporains, il faut l'analyser sur différents niveaux que je me propose d'exposer pour vous aujourd'hui. Donc le premier niveau au niveau stratégique, ensuite au niveau politique et au niveau métapolitique. Donc au niveau stratégique, il faut comprendre le contexte dans lequel nous le sommes, qui est celui de ce que j'appelle une guerre mondiale hybride. C'est la prolifération nucléaire et le risque de destruction mutuelle assurée qui en découle, qui freine pour l'instant la confrontation directe des principales puissances du système monde contemporain. Des États qui sont tous des puissances nucléaires. Effectivement, depuis 1945, seul un État nucléaire peut réellement être souverain et être à même de défendre son intérêt vital premier, à savoir son territoire. C'est d'ailleurs l'un des principes de la dissuasion nucléaire française, élaborée dès les années 60 par les généraux Ailleret, Beaufre, Gallois et Poirier. Doctrine qui était basée sur la dissuasion du faible au fort. Je cite ici le général Poirier qui expliquait: la stratégie du faible au fort, c'est-à-dire la dissuasion française, est fondée sur l'idée qu'étant donné la capacité de destruction unitaire de l'arme nucléaire, comparée au panoplie classique, il suffit d'un nombre suffisant d'armes nucléaires pour dissuader un adversaire. L'armement est proportionné à la valeur de l'enjeu qu'on représente aux yeux d'un éventuel agresseur. La dissuasion nucléaire n'abolit pas la guerre. Elle abolit entre les puissances nucléaires les agressions dont le but est de s'emparer du territoire adverse. Cette situation d'aporie stratégique, en quelque sorte, qui conduit à de nouvelles formes de conflictualité que l'on pourrait considérer être des armes furtives. C'est ce qui donne naissance à une forme de guerre mondiale hybride, dans laquelle sont déployés toutes sortes de vecteurs de la guerre dite hors limite, ou aussi de la guerre de subversion. Vecteurs dont les retombées touchent en premier lieu les populations elles-mêmes. Alors c'est un petit peu les différentes méthodologies hein, que j'ai étudiées dans mes différents livres, que ce soit la guerre cognitive, les armes biologiques, les déplacements organisés de populations, les armes climatiques qui sont par nature furtives et difficiles à identifier, comme l'expliquait Zbigniew Brzezinski dès les années 70, qui parlait dans un de ses livres des armes météorologiques qui serviraient à l'avenir à conduire des guerres dont il disait je cite que seuls certains services de renseignement seraient au courant du déroulement de ces guerres. C'est le domaine des armes de l'ombre qu'a traité Mark Filterman, que M. Messant, qui interviendra tout à l'heure, connaît bien. Et dont il avait parlé d'ailleurs dans son livre Le Pentagate, je crois bien. L'évolution de la guerre moderne est par ailleurs marquée par la dilution progressive de la limite entre civils et belligérants et de l'exposition accrue des populations aux affres de la guerre. C'est ce que le polémologue Paul Virilio appelait la métropolitique. Il disait que finalement, à l'époque de la globalisation, nous étions sortis de la géopolitique et finalement, ce n'était plus la géographie, mais vraiment la cité universelle habitée par ses habitants qui sont constamment sous le feu de cette guerre hors limite qui ne fait plus la distinction entre, finalement le temps de paix et le temps de guerre. D'ailleurs, on voit qu'on glisse toujours les conflits récents, finalement, hormis peut-être, par exemple, l'opération militaire spéciale, ne sont pas des guerres qui, au départ, sont déclarées. Par exemple, le conflit en Syrie, au départ, c'est l'instrumentalisation de certaines minorités qui, progressivement, vont amener à une dégradation et à l'intervention de forces extérieures dans ce pays. Pays qui, justement, n'était pas doté de l'arme nucléaire et qui, donc, ne pouvait pas défendre son intégrité territoriale. Un pays comme la France, donc, qui est à la base de cette doctrine de dissuasion nucléaire du faible au fort, peut sanctuariser son territoire, mais est justement, il est attaqué par tous les vecteurs indirects dont nous subissons les conséquences. Paul Virilio disait aussi en ce sens « Nous sommes tous des dissuadés », dans le sens que nous subissons tous la dissuasion à notre corps défendant. Le corollaire du projet de paix perpétuelle globaliste semble bien être en quelque sorte celui d'une guerre perpétuelle, mais qui ne dit pas son nom. Cette impossibilité de confrontation directe est dans la continuité de la guerre dite froide, durant laquelle USA et URSS ne pouvaient s'affronter directement et déplacer alors leur rivalité stratégique sur des territoires tiers. Le deuxième, axe que l'on peut étudier pour comprendre la séquence que nous traversons et qui est l'un des fondamentaux de l'approche globaliste des relations internationales, c'est la priorité donnée à l'arraisonnement de l'Eurasie le containment, la contention des rivaux stratégiques eurasiatiques des puissances atlantistes. Dans ce contexte, on peut analyser beaucoup des conflits contemporains. Ainsi, après l'Ukraine, un nouveau front de cette guerre mondiale hybride entre USA et Eurasie s'est ouvert au Moyen-Orient. Dans mes interventions depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, j'invite à défocaliser du seul conflit régional pour le resituer dans son contexte plus ample. Celui de la confrontation planétaire entre ce que les stratèges anglo-américains désignent comme l'océan global, à savoir l'Amérique-monde, en quelque sorte les puissances atlantistes ou thalassocratiques, et les puissances de ce qu'ils désignaient comme l'île mondiale, c'est-à-dire le continuum terrestre tricontinental, Europe, Asie, Afrique. Ce sont là des fondamentaux un peu de l'approche anglo-américaine des questions stratégiques et de relations internationales. Dans ce contexte, le Moyen-Orient constitue un territoire clé pour le passage des routes logistiques et énergétiques eurasiatiques et eurafricaines entre l'Asie et l'Europe. La perspective d'une connexion géoéconomique d'échelle pancontinentale eurasiatique portée par la Chine avec son projet des nouvelles routes de la soie, le projet Belt and Road Initiative, représente actuellement le grand défi stratégique pour les Anglo-Américains. Il s'agit pour eux d'empêcher ou au moins de ralentir la connexion de la Chine à l'Europe via le Moyen-Orient et de favoriser son propre corridor géoéconomique concurrent. Par exemple, l'IMEC, l'India Middle East Europe Economic Corridor. L'IMEC prévoit une route maritime qui relierait aussi l'Inde au Golfe Persique et une route reliant l'Arabie Saoudite à l'Europe via la Jordanie et Israël par voie ferroviaire et maritime. La signature de l'IMEC au moment du G20 en septembre 2023, un mois avant le déclenchement de la guerre, une réunion donc du G20 dans laquelle était absente, qui avait lieu significativement en Inde et au cours de laquelle étaient absents la Chine et la Russie. L'Inde, qui est aussi un membre fondateur des BRICS, mais qui pratique habilement la doctrine dite du multi-alignement, du fait de son statut de puissance de plus en plus incontournable entre Eurasie et Occident. L'Inde ayant en outre différents contentieux territoriaux avec son voisin chinois. Donc l'IMEC, c'est un projet de corridor stratégique qui vise à soutenir la connexion et l'intégration économique entre Asie, Golfe Persique et Europe. Elle prévoit donc aussi un couloir d'hydrogène propre, entre guillemets, qui relierait l'Inde à l'Europe en passant par la Jordanie et Israël. Marseille et le port du Pirée devraient devenir des ports d'accès en Europe pour ce projet s'il voit le jour. Le port d'Haïfa, en Israël, est un point stratégique de ce couloir logistique et énergétique alternatif aux nouvelles routes de la soie. Il faut savoir que pendant un certain temps, les investissements chinois en Israël n'ont cessé de croître, mais notamment dans le port d'Haïfa. Mais en 2023, les investisseurs indiens ont supplanté les investissements chinois dans le port d'Haïfa. Alors que l'essentiel du commerce de l'Inde avec l'UE s'effectue pour l'instant via le canal de Suez, l'IMEC constitue potentiellement une route alternative au canal entre Inde et UE via le continuum des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et d'Israël. Tout le long de ces voies de communication et de commerce entre Asie et Europe se déroule ainsi une rude concurrence géoéconomique. Comme dans les phases précédentes de la longue guerre mondiale d'un siècle, le cosmopolitisme anglo-américain cherche à séparer les sous-continents d'Europe, du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est du cœur stratégique de l'île mondiale eurasiatique, du Heartland, comme le désignaient Mackinder et les stratèges anglo-américains. Comme durant la guerre dite froide, mais qui faisait 2 millions de morts en Corée, presque autant au Vietnam, donc, ce qui montre que finalement la conflictualité n'a pas cessé tout au long depuis un siècle. Ce que Mackinder désignait comme l'impérialisme libéral cherche à découpler méthodiquement le pourtour eurasiatique de l'influence des puissances eurasiatiques ascendantes du moment. Après la France au XIXe siècle, l'Allemagne et la Russie au XXe, c'est désormais le couple sino-russe qui constitue le pôle d'intégration eurasiatique que les puissances thalassopolitiques doivent contrecarrer pour maintenir leur hégémonie sur le système monde contemporain. Heartland, île mondiale, océan global, etc. Ces catégories furent forgées il y a un siècle par Alfred Mackinder afin de donner une assise conceptuelle à l'hégémonie britannique. Régulièrement actualisée par les grands stratèges anglo-américains, de Spykman à Brzezinski, elle demeure d'actualité et sont au cœur de la géopolitique globaliste et des actions de ces réseaux dans le monde, comme par exemple ceux de l'Open Society Foundation, dont les fondations sont toujours stratégiquement situées sur des points de friction entre cet Occident politique, comme le désignent les Russes, et l'Eurasie. Donc, évidemment, la question clé, c'est celle de la polarisation du système monde entre la Chine et les USA. Donc là, c'était au niveau stratégique. Maintenant, au niveau politique, pour appréhender la séquence que nous traversons, dans les années 90, le président Clinton avait dit « pour la première fois, il n'y a pas de différence entre la politique intérieure et la politique étrangère ». Alors ça, c'est aussi un élément clé à comprendre. C'est que pour le courant globaliste des relations internationales, c'est l'absence d'une autorité supra-étatique, en quelque sorte d'un État des États, d'un État mondial ou d'une fédération mondiale intégrée, qui expliquerait les guerres constantes qui frappent l'humanité sans discontinuer et l'état de guerre et son état de guerre perpétuel. Pour cet idéalisme globaliste, dépasser ce qui est désigné comme l'anarchie internationale, en fait dépasser cette sorte d'état de nature interétatique, cela constitue un impératif catégorique vers lequel tout le politique doit tendre, au risque de se complaire dans la barbarie, le bellicisme ou le cynisme de la raison d'État. un catholique globaliste de cette tendance-là, enfin de cette qui écrivait après la Seconde Guerre mondiale, Jacques Maritain synthétisait un petit peu les objectifs de cet idéalisme globaliste. Il disait « Si donc un jour arrive où la guerre sera rendue impossible, c'est que l'anarchie, entre les nations aura été supprimée, ou en d'autres termes, qu'une autorité mondiale aura été établie. » Nous pensons que c'est la tentative, enfin je pense que c'est la tentative d'élaboration de cette autorité mondiale qui sabote de l'intérieur la puissance des nations occidentales. Les États occidentaux sont ainsi empêchés d'interagir librement et souverainement et d'entretenir des rapports normaux, c'est-à-dire interétatiques, avec les autres puissances. Et on peut penser, on peut analyser aussi le choc actuel comme une ligne de fracture entre les puissances globalistes qui placent au cœur de leur orientation stratégique l'élaboration de cette fédération mondiale ou de cet État mondial, et les puissances réalistes qui considèrent quant à elles que l'État reste l'acteur stratégique des relations internationales, en fait des relations interétatiques. Il y a en fait une forme d'ambiguïté au sein de l'idéalisme globaliste, c'est que finalement pour vouloir faire sortir l'homme de sa condition de loup pour lui-même, en quelque sorte, il est exigé, en fait, de mener une guerre mondiale perpétuelle contre ce que Karl Popper appelait les ennemis de la société ouverte. La société ouverte étant, finalement, le cosmopolitisme réalisé, c'est-à-dire la fin des États, et donc une société entièrement ouverte, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus qu'une seule autorité qui gère toute une humanité. Et c'est finalement un retour à la guerre juste, contre des avatars multiples et toujours renouvelés de la personnalité autoritaire, que ce soit Bachar al-Assad, Xi Jinping, Vladimir Poutine. La guerre perpétuelle est en quelque sorte le corollaire du projet de paix perpétuelle. Rejoindre cette paix perpétuelle nécessite une inclusion progressive mais forcée de toute l'humanité au sein de cette autorité mondiale supra-étatique et post-politique. Mais en attaquant systématiquement l'État et le politique, le cosmopolitisme corrode en quelque sorte la nature même de l'échiquier mondial et abîme ainsi la structure fondamentale des relations internationales. L'état de nature qui était maintenu par les États à l'extérieur des sociétés reflue et se déverse alors vers l'intérieur des États. L'anarchie internationale devient en quelque sorte anarchie intranationale. Le chaos civil et social se répand alors dans les sociétés. C'est, selon moi, ce que nous vivons en France progressivement depuis plusieurs années. C'est-à-dire, à mesure que l'on déconstruit l'État pour transférer ses prérogatives régaliennes vers un super-État européen qui sera lui-même une région monde d'une autorité mondiale cosmopolitique, eh bien, naturellement, on lève les barrières politiques qui freinaient, qui protégeaient en quelque sorte la communauté nationale. Et l'anarchie se répand, le désordre se répand dans la société. Et les premières cibles, donc, ce sont les sociétaires eux-mêmes, les citoyens. La fonction première du politique n'est alors plus assurée, c'est-à-dire contenir et freiner la violence inhérente à la condition humaine. Dans son étymologie même, le terme d'État, du latin stare et status, se tenir debout, renvoie à l'idée de forme et de stabilité face au flux et à l'impermanence. Un État réellement politique est celui qui s'oppose par essence à la société liquide et ouverte globaliste. C'est autour du rôle stratégique de l'État et de sa place dans l'ordre international que la ligne de confrontation entre Orient politique et Occident politique, en quelque sorte, est amenée à se durcir toujours plus. Après s'être emparé de l'ensemble de l'Occident, ce cosmopolitisme bute désormais sur l'intégration du cœur de l'Eurasie, constitué par le binôme Chine-Russie. Contenir, mais aussi à terme conquérir et dominer l'ensemble de cette île mondiale eurasiatique et africaine, constitue l'un des fondamentaux de la géopolitique globaliste, de ses réseaux et de ses stratèges. Il y a enfin un dernier niveau d'analyse de la situation que nous traversons, c'est celui de la métapolitique, c'est-à-dire celui en quelque sorte du choc des visions du monde et des orientations stratégiques. Et là, c'est un petit peu le plan où se rejoint la politique et les idées politiques, ou même les idées religieuses, même sous forme sécularisée. Et il y a là le domaine, parce que ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la volonté d'arriver à une forme d'État mondial, ne découle pas de rien. Il s'agit finalement d'une version sécularisée de ce que l'on appelle le millénarisme, c'est-à-dire la volonté d'arriver à restaurer une forme de paradis terrestre, mais par le politique ou par les relations internationales. Le millénarisme peut prendre différentes formes actuellement, et c'est aussi en quelque sorte un perturbateur des relations internationales ou interétatiques, et on le voit actuellement en Israël. J'ai fait il y a 2 semaines de cela une conférence sur ce thème-là avec Youssef Indy sur la question théopolitique et par exemple le rôle que joue le millénarisme et le messianisme dans les orientations que prend l'actuel gouvernement Netanyahou. Bien, ce millénarisme rend difficile la rationalisation, en quelque sorte, des rapports entre puissances. Puisque quand vous avez des officiels comme les membres du gouvernement actuel en Israël qui sont pour la déportation massive des Palestiniens et qui sont pour le remplacement par des colons israéliens dans la perspective de la reconstitution d'un royaume d'Israël et pour la reconstruction du temple de Jérusalem en lieu et place de la mosquée d'Al-Aqsa et du dôme du Rocher, et bien là vous avez face à vous un acteur stratégique qu'on pourrait considérer comme irrationnel, mais dont ses buts participent clairement de ses actions et de sa vision du monde. Et donc on a là une dimension finalement du politique et du stratégique qui est rarement prise en compte, mais qui va l'être de plus en plus à mesure que finalement les idées politiques ou les idéologies politiques se sont effondrées. L'homme n'étant pas juste qu'une créature rationnelle ou juste un robot, l'homme ne vivant pas que de pain, il a aussi besoin d'un idéal pour vivre. Et donc les idéologies politiques ne remplissant plus ce vide, eh bien, elles vont être comblées de plus en plus par les idéologies théopolitiques. Et ces différents millénarismes vont se confronter toujours plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, ce que proposent les stratégistes chinois pour sortir de ces formes de conflictualité, y compris idéologique. Par exemple, la notion de Tianxia, qui est l'idée d'une forme de multipolarité non seulement politique, mais aussi philosophique, c'est-à-dire un système monde dans lequel les différents pôles de puissance ne chercheraient plus à imposer aux autres une idéologie spécifique, mais chercheraient chacun à essayer de se coordonner en acceptant cette altérité. Et le paradoxe étant celui-ci, c'est que finalement, nous autres occidentaux, nous ne nous en rendons pas forcément... Enfin, nous qui sommes ici, je pense que nous nous en rendons compte, mais souvent les populations sont bernées par cela, c'est qu'on croit, enfin, on nous vend un système inclusif, mais le système finalement qui pilote l'Occident politique est un système exclusif, mais qui justement se dissimule sous les apparats de cette inclusion du monde entier au sein d'une autorité globale. Et c'est pour cela qu'il est, il était difficile en quelque sorte... pour les puissances même qui étaient victimes du globalisme politique, de comprendre ce qu'elles vivaient. Mais maintenant, avec en quelque sorte le soulèvement stratégique initié par la Russie et la Chine, eh bien la donne change. Et finalement, les mondialistes sont confrontés au croisement de 2 courbes qui peuvent être dangereuses pour leur projet. Celle de la conjonction en fait coordination de rivaux géostratégiques avec la montée d'une opinion politique au sein de l'Occident qui comprend que finalement la véritable nature du projet des élites qui ont pris le contrôle de nos sociétés. Et finalement, si ces deux courbes se croisent, on peut avoir des perturbations systémiques qui finiraient par peut-être, souhaitons-le, ébranler le système globaliste. Merci à vous. Je laisse la parole à M. Messin.
Les relations internationales aujourd'hui sont gouvernées à la fois par ce que pensent les élites occidentales que vient de décrire Pierre-Antoine maintenant, mais en même temps, elles sont dirigées non pas par ces élites, mais par l'État profond aux États-Unis. Et cet État profond ne pense pas comme les élites. Il les utilise, mais il les manipule. Cet État profond, probablement a-t-il toujours en tête les théories de Mackinder, mais il sait bien que ça ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Et donc, il s'est créé un nouveau programme qu'il a mis au point à la fin des années 90. Après avoir même favorisé l'effondrement de l'Union soviétique et surtout l'effondrement de la Russie, qui était quelque chose d'absolument tragique. Vous savez, brutalement, l'espérance de vie des Russes a diminué de près de 20 ans, en une année. Bon. Et leur économie s'est totalement effondrée. Donc, eux, ils ont envisagé, quand ils ont vu la Russie sortir de la misère tout d'un coup et retrouver un peu d'économie, ils ont envisagé que l'intérêt pour eux, ça serait de diviser le monde en deux. Oui, il y a des États qui sont développés. Eh bien, travaillons avec ces États, on va leur vendre des choses. Et puis, il y en a d'autres qui sont sous-développés. Alors là, on peut rien leur vendre. On peut juste les exploiter. Donc, nous allons exploiter toutes les ressources naturelles de ces États, les vendre à ceux qui sont déjà développés, ce qui comprend la Russie et la Chine, et instaurer une sorte de taxe pour venir bénéficier de ces matières premières. Donc l'état-major du Pentagone a fait une grande carte et il a dit, voilà, les pays sous-développés, c'est l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient. Voilà, c'est grosso modo, c'est ça. Alors le Moyen-Orient, mais c'est quoi exactement? C'est difficile à déterminer. Alors on a inventé un nouveau terme, on parle de Moyen-Orient élargi. Donc ça va jusqu'à l'Afghanistan, comme ça. Et si on veut exploiter ces pays, enfin exploiter leur matière première, ben, on doit d'abord s'assurer qu'il n'y ait pas d'opposition politique. Donc nous devons détruire toutes les institutions politiques, tous les gouvernements de ces pays. Mais il y a des pays amis et des pays ennemis. Peu importe. On doit les détruire. n'y a plus d'amis ou d'ennemis, on parle d'exploitation capitaliste, on ne parle pas d'autre chose.
Bon.
Et donc, le 12 septembre 2001, le lendemain des attentats aux États-Unis, on a donné ce plan qui a été publié par la revue de l'armée de terre des États-Unis. Et dans ce plan, on a précisé, et il faudra certainement commettre des massacres et tout ça, mais nous, États-Unis, on ne peut pas faire ces massacres. Alors, on s'en remettra à des groupes non gouvernementaux qui feront ça pour nous. Bon, c'est Al-Qaïda, Daesh. Hein. Donc c'est dit noir sur blanc, écrit, publié le 12 septembre 2001. Ce projet vient dans la continuité de ce que les anglo-saxons ont toujours voulu imposer leurs lois au reste du monde. Ce qui vient d'être décrit maintenant. Mais au 19e siècle, ils ont essayé de faire ça par la force. Aujourd'hui, ils le font par le droit. Autant les Russes de l'époque tsariste et les Français de la Troisième République ont voulu construire un droit international, une idée vraiment bizarre, un droit international. Personne n'avait parlé de ça avant eux. Autant les États-Unis ont voulu, et le Royaume-Uni, ont voulu imposer leurs règles. On ne parle pas de droit, on parle de règles, c'est très différent. Vous voyez, lorsque Churchill et Roosevelt ont signé la charte de l'Atlantique en 1942, qu'ils ont décidé de faire entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis avaient été pendant 2 ans absolument neutres. Quand ils ont décidé ça, ils ont, en même temps, en signant ce texte, décidé qu'après la guerre, il y aurait une gouvernance mondiale par leurs deux pays. Et leurs deux seuls pays. Ça s'appellerait l'Organisation des Nations Unies, mais ça serait eux, les chefs, et personne d'autre. Alors bon, ça ne s'est pas passé comme ça, hein, parce que les Soviétiques ont gagné la guerre, en fait, il a bien fallu, croit-on, partager ces nouvelles institutions avec eux. Et les Soviétiques ont repris leur vieille idée tsariste du départ d'un droit international. Et aussi, j'insiste sur le fait que c'est un Français qui a formulé tout ça à la fin du 19e siècle c'est Léon Bourgeois qui a eu le prix Nobel de la paix après. Donc les Soviétiques, dès le début des Nations Unies, ont mis en cause la manière dont les Anglo-Saxons voulaient installer leur domination sur le monde. Donc, tout ça, ça a commencé avec la création manquée d'un État palestinien. C'est le premier point d'achoppement aux Nations Unies. Bon, les Soviétiques voulaient qu'il y ait 2 États en Palestine, un État juif et un État arabe, et qu'ils soient ensemble dans une fédération, avec la certitude que chaque homme vaudrait une voix, que les Arabes et les Juifs devaient être égaux. Et puis il y a eu un deuxième sujet de friction, qui a été la guerre de Corée. Mais juste avant la guerre de Corée, dans la même logique, les États-Unis ont invité à s'asseoir au Conseil de sécurité la Chine, comme c'était prévu. On avait signé tous pour ça. Sauf que ça n'était pas Mao Zedong, c'était Chiang Kai-shek. L'histoire de Taïwan d'aujourd'hui, c'est de l'histoire se prolonge. Il n'y a absolument rien de nouveau dans tout ça. Donc les Soviétiques, même s'ils étaient favorables à la Corée du Nord contre la Corée du Sud, même si les deux pays n'étaient pas officiellement créés, sont partis des Nations Unies en claquant la porte. Pendant 6 mois, ils n'ont pas siégé aux Nations Unies, en disant que le texte qu'ils avaient signé n'était pas appliqué par les anglo-saxons. Bon, les États-Unis en ont profité, ils ont dit « ils sont absents, allez, vous me votez que pour le soutien à la Corée du Sud, les Nations Unies décident de mettre un casque bleu sur la tête des GI et nous allons nous battre avec le casque bleu sur la tête contre la Corée du Nord. » Bon, là, les Soviétiques sont revenus aux Nations Unies un peu dépités parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que le texte qu'ils avaient signé pouvait être lu de la manière dont les anglo-saxons l'avaient lu, mais c'était fait exprès, évidemment, et qu'ils ne s'en étaient pas rendus compte au bon moment. Pendant les années qui ont suivi, cette bataille a toujours duré. Et la guerre froide, c'est la continuation de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'est pas une chose nouvelle. C'est à nouveau les États-Unis et le Royaume-Uni, dont le rapport avait été transformé, puisque les États-Unis étaient devenus plus riches que l'Empire britannique, mais les anglo-saxons ensemble voulaient continuer à imposer leur domination sur le monde, et les soviétiques prétendaient au contraire instaurer un droit international. Alors qu'est-ce que c'est qu'un droit international ? Ça veut dire que c'est pas du tout comme le droit civil ou pénal chez nous. Là, nous écrivons ensemble ce droit, il est voté par nos assemblées, et il y a une police qui est chargée de le faire appliquer. Mais il n'y a pas de police internationale, donc le droit international, ça n'est pas comparable. Le droit international, c'est un ensemble de règles qui n'existent pour vous que si vous les signez. Donc, traité après traité, vous prenez des engagements. Et le droit international, c'est l'obligation que vous avez de respecter les engagements auxquels vous avez signé, pas les autres, uniquement ceux-là. Et à la place de la police, ça c'était l'idée de Léon Bourgeois, à la place de la police, on va utiliser les opinions publiques contre les gouvernements qui ne respecteraient pas leur signature. Parce qu'en fait, il n'y a aucun gouvernement qui va accepter que son peuple lui reproche de violer sa signature. Et c'est pour ça que la question de la qualité de l'information est fondamentale. Si vous savez que votre gouvernement viole sa signature, vous allez le lui reprocher. Est-ce qu'il y a ici beaucoup de gens qui savent, par exemple, que Mayotte ne devrait pas être une colonie française, mais que les Nations Unies ont plusieurs fois réclamé que Mayotte soit indépendante ? Non, personne ne le sait. Est-ce que vous savez que le gouvernement français a signé que Mayotte devait rester dans les Comores et non pas devenir un département comme c'est aujourd'hui. Non, vous ne le savez pas. Ça, si vous le saviez, certainement, vous regarderiez les troubles qui ont lieu là-bas d'une autre manière. On n'est sûrement pas envie que ça se termine comme en Algérie, cette affaire-là. Donc, au début, les Anglo-Saxons ont utilisé un droit international tel qu'il existait en essayant de tirer la couverture à eux, mais sans chercher à le déformer. Et puis, avec Madeleine Albright, c'est-à-dire à l'époque de Bill Clinton, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, c'était Madeleine Albright. Après, elle est devenue secrétaire d'État. Donc Madeleine Albright a commencé une autre manière de voir. Elle a dit, mais nous devons changer les textes du droit international pour les mettre au service de notre domination. Et ça, c'est très facile à faire. On va prendre chaque texte et dire qu'il faut le moderniser. Hein, les temps changent, tel aspect est un peu différent. Donc on va réécrire. Et au lieu de réécrire selon la manière dont on avait écrit les textes internationaux juste là, on va prendre comme référence le droit anglo-saxon. Donc, tous les anciens textes ont été réécrits, d'abord en langue anglaise, maintenant c'est la langue qui sert de base à ça, et avec une logique de la tradition qui l'emporte sur la décision collective. La tradition, c'est-à-dire en fait que les plus avantagés sont encore les plus avantagés. C'est ça la tradition. Il se trouve que le travail de Madeleine Albright a continué après sous George Bush. Parce que Madeleine Albright, c'était la fille d'un grand professeur de sciences politiques et de droit qui avait théorisé cette notion en faisant rentrer les textes internationaux dans le droit anglo-saxon, nous allons les miner de l'intérieur. Et il avait, en plus de sa fille biologique, il avait une fille adoptive, Condoleezza Rice, qui a été la conseillère de sécurité, puis la secrétaire d'État de George Bush. Donc à droite et à gauche, on continue, c'est les mêmes. Et cette politique, petit à petit, a miné absolument tout. Aujourd'hui, le droit international peut être lu, peut-être, parce qu'en fait, si on prend tous les textes, il ne peut pas, mais certains des textes du droit international peuvent être interprétés d'une manière qui favorise les anglo-saxons. Aujourd'hui, vous avez une guerre en Ukraine. Mais on vous dit les Russes sont très méchants. Ils veulent envahir toute l'Europe et ils ont commencé par l'Ukraine. Ils sont assoiffés de terre. Pas du tout. Les Russes ont appliqué la résolution 2202 du Conseil de sécurité et les accords de Minsk qui sont inscrits dans cette résolution. Alors pourquoi on vous dit qu'ils ont envahi ce pays ? Est-ce que la France a envahi le Rwanda quand elle a mis fin au massacre au Rwanda ? Non, C'est ce qu'a fait la Russie. Elle a mis fin au massacre au Donbass, qui durait déjà depuis 8 ans, et dont notre honorable président François Hollande dit qu'il a signé les accords de Minsk en pensant ne jamais les appliquer, et de manière à donner le temps à l'Ukraine de s'armer pour pouvoir combattre les Russes. Là, c'est un crime contre la paix, hein. C'est le crime le plus grave. Hein. On ne parle pas des crimes contre l'humanité, on parle d'un crime contre la paix, c'est-à-dire de ce qui rend possible les crimes contre l'humanité. D'ailleurs, actuellement, en Russie, il y a un mandat d'arrêt contre François Hollande pour le juger pour ça. Mais on ne vous en a pas parlé ici, je pense. Et si on vous en parlait, ça serait pour vous dire que vraiment, les Russes sont... mauvais joueur et que voilà, c'est une dictature, oui. Ce que les Russes et les Chinois veulent faire, ça n'est pas, contrairement à ce que pensent les Occidentaux et particulièrement les États-Unis, ça n'est pas rivaliser avec les États-Unis. Ça, c'est une mentalité purement occidentale. Vous savez, on parle du piège de Thucydide, du nom d'un historien grec qui avait expliqué que lorsque Athènes s'est développée, Sparte s'est sentie menacée. Et donc, une guerre entre les deux était devenue inévitable. Mais oui, parce que c'était deux Grecs qui pensaient de la même manière. Mais jamais... les Russes ne sont allés coloniser l'autre bout du monde. Jamais les Chinois n'ont fait ça. Donc, ce n'est pas ce que recherchent la Chine et la Russie. Eux, ils souhaitent un monde où chacun puisse vivre à côté de son voisin, en paix avec lui et puisse commercer avec lui. Pendant des années, d'ailleurs, vous avez dû entendre les dirigeants chinois venir en Europe et dire « Nous voulons des échanges gagnant-gagnant ». Ça veut dire quoi, gagnant-gagnant ? Alors, évidemment, quand on a dans la tête toutes les références des États-Unis, gagnant-gagnant, on dit ben, « C'est quelque chose qui doit rapporter aux deux à la fois ». Mais ça ne veut pas du tout dire ça. Ça fait référence à l'histoire de la Chine, où l'empereur de Chine devait, lorsqu'il prenait un décret, une décision, il devait veiller à ce que chaque gouverneur de chacun de ses États soit gagnant. Tout le monde devait être gagnant. Mais il y a des décisions qui étaient prises qui ne concernaient pas telle région. Alors comment le rendre gagnant, celui-là ? Donc il fallait lui donner quelque chose à cette occasion. C'est ça, gagnant-gagnant. C'est veiller à ce que chacun trouve un intérêt à une décision collective. Bon. Quant à la Russie, on sait bien qu'elle n'a jamais colonisé... en dehors de ses frontières immédiates, et que lorsqu'elle a envahi ses frontières immédiates, par exemple lorsque l'armée tsariste a envahi la Sibérie, il n'y avait personne qui vivait en Sibérie, c'était quelques tribus. Au début, on a envoyé un général qui a massacré les gens à tour de bras. Ouh là là, le tsar l'a fait revenir, qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas des sauvages? Donc, ce général a été évincé, on en a mis un autre qui a été chargé de négocier avec chacun la protection du tsar. Et évidemment, il y avait besoin d'une protection du tsar en Sibérie. Vous ne pouvez pas vivre comme ça en Sibérie, dans un milieu aussi hostile. Donc, ce sont des traditions complètement différentes de celles de l'Occident. Aussi un mot sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Je pense que c'est très difficile à comprendre depuis l'Europe. Très, très difficile à comprendre. D'abord, on vous a raconté qu'il y avait une attaque du Hamas contre Israël. Non. C'est une attaque de la résistance palestinienne. Il n'y a pas que le Hamas. Il y avait le FPLP et le djihad islamique qui, tous deux, ou plutôt tous trois, parce qu'il y a deux tendances du FPLP, ont participé à cette attaque. La deuxième chose, c'est que personne ne vous a dit qu'est-ce que c'est que le Hamas. Jusqu'en 2017, sur tous les papiers du Hamas, c'était marqué « branche palestinienne des frères musulmans », de la confrérie des frères musulmans. Qu'est-ce que c'est que cette confrérie ? C'est une organisation politique, exclusivement politique, ça n'a rien de religieux, mais qui utilise la religion pour son objectif politique. Et cette organisation a été restructurée après la Deuxième Guerre mondiale par les Britanniques sur le modèle de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Donc, cette organisation, dans tous les pays où elle est présente, elle obéit au gouvernement britannique. Alors, en 2017, le Hamas a enlevé cette mention de branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans, et il y a eu des troubles au sein du Hamas, tout ça. Mais la direction est restée, que ce soit la direction politique ou la direction militaire, sont restées entièrement fidèles à cette confrérie. Simplement, il y a quand même des gens qui voyaient que les frères musulmans avaient échoué en Égypte, qu'ils échouaient un peu partout, qu'en Syrie c'était la catastrophe, etc. Donc il y a eu à Gaza des gens qui ont souhaité faire de la résistance avec la seule organisation qui existait à Gaza, qui était le Hamas, mais pas dans le cadre des frères musulmans, dans le cadre d'une vraie résistance palestinienne. Donc, ces deux courants se sont plus ou moins séparés, mais c'est toujours la même organisation. Donc il y a une partie qui, l'année dernière, est allée faire la paix avec Bachar el-Assad, parce que le Hamas avait lutté aux côtés de l'OTAN et contre la République arabe syrienne. Donc ceux qui voulaient venir qui voulaient représenter une résistance palestinienne sont allés faire la paix avec Bachar el-Assad. Mais pas les autres. Ils sont toujours en guerre, les autres. Donc, déjà, ça doit un peu changer votre manière d'appréhender le conflit qui a lieu là-bas. Ensuite, il y avait en Israël, depuis plusieurs mois, depuis 6 mois, il y avait des troubles politiques considérables. La moitié du pays défilait contre l'autre moitié. On parlait de coup d'État. Le mot n'est pas de moi. Il est de gens qui, d'ailleurs, maintenant, sont au gouvernement de guerre. Donc on accusait Benjamin Netanyahou d'avoir constitué une alliance avec des groupuscules particuliers de son pays et d'avoir réformé les règles de... Il n'y a pas de constitution là-bas, mais d'avoir réformé les lois constitutionnelles, les lois fondamentales de son pays pour disposer de tous les pouvoirs, qu'il n'y ait plus de pouvoir à la Knesset, que ce soit uniquement le gouvernement qui décide. « Évidemment que ça, on ne parle plus, hein, puisque c'est la guerre. Donc il peut faire ce qu'il veut maintenant. Il se trouve que cette coalition des amis de M. Netanyahou, qui est parvenue à obtenir une majorité à la Knesset il y a un an, cette coalition est composée de gens qui se définissent eux-mêmes, c'est leur expression, comme sionistes révisionnistes, c'est-à-dire ce sont les héritiers de Jabotinsky. Alors Jabotinsky, c'était un juif ukrainien qui était un fasciste aussi. Il a travaillé avec Mussolini, tout ça. Donc ce monsieur Jabotinsky, en 1922, a fait alliance avec le Simon Petlioura, qui s'était proclamé le nouveau chef de l'État dans une partie actuelle de l'Ukraine, disons le nord de l'Ukraine, le nord et l'ouest de l'Ukraine. Petlioura était un fasciste lui aussi, et il voulait lutter contre les soviétiques, puisque c'était le début de la révolution chez eux. Et bon, c'était un antisémite notoire, hein, Petlioura. Il a massacré beaucoup de juifs avant de pouvoir se déclarer chef de l'État. Mais Jabotinsky a décidé de faire alliance avec lui, parce que c'était deux fascistes qui avaient une idée en tête, instaurer leur pouvoir sans se préoccuper de la vie des gens. Donc, Petlioura a continué ses massacres de juifs après cette alliance. Mais cette alliance était restée secrète jusque-là. Et tout d'un coup, ça s'est su. Donc voilà, ce massacreur de juifs est allié avec Zev Jabotinsky, qui est un administrateur de l'Organisation sioniste mondiale. Bon, vous imaginez le traumatisme, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Donc l'Organisation sioniste mondiale demande à M. Jabotinsky de venir s'expliquer, de venir nous dire ce que c'est. Et lui claque la porte, il n'a pas à s'expliquer devant ses anciens amis. Au contraire de ça, il va partir en Italie, où il va créer le Bétard, voilà. Donc ce groupe de Jabotinsky a continué au début de la guerre à se maintenir plutôt du côté de l'Axe, mais pas à s'engager directement avec l'Axe. Parce que tous ces gens-là s'étaient battus auparavant, pendant la Première Guerre mondiale, avec les Britanniques. Il leur était difficile de rentrer en guerre contre les Britanniques. Donc Jabotinsky est allé s'installer à New York, puisque les États-Unis étaient un pays neutre au début de cette guerre. Et là, c'est là qu'il a pris son secrétaire particulier, l'historien Benzon Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Donc, il s'est installé là. C'est aussi là qu'il a reçu un professeur de philosophie de Chicago, Léo Strauss. Léo Strauss, vous savez, la figure tutélaire des néoconservateurs. Alors, Léo Strauss était un juif allemand Mais c'était un fasciste, et c'est pour ça qu'il avait quitté l'Allemagne nazie, parce que il était juif, il ne pouvait pas vivre là-bas. Mais comme il était fasciste, il ne pouvait pas vivre non plus avec les Anglais. Donc il est allé s'installer à New York, à Chicago, et après il a fait ce détour avec notre ami Jabotinsky. En Ukraine, Petlura, lui, il avait conseiller particulier un penseur, monsieur Donsov, Mitro Donsov. Donc, cet homme a... C'est pas venu d'un coup. Il a progressivement rédigé une idéologie. Lui, pendant la Première Guerre mondiale, il était du côté des Allemands. Hein. Il était même stipendié par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. C'était un espion pour eux, un agent d'influence. Mais donc, ce monsieur, progressivement, a constitué une idéologie où il a dit « Non, les ennemis, ce n'est pas les Soviétiques. C'est les Russes, c'est la culture russe, c'est ça le mal. » Et il a commencé à dire, nous sommes nés pour détruire la Russie. C'est ça notre vocation. Nous ne serons ukrainiens que lorsque nous aurons détruit la Russie. Bon. Alors, quand la guerre mondiale est arrivée, ce monsieur Donsov, qui supervisait les pogroms et tous les massacres d'Ukrainiens. Il avait déjà tué plus d'un million d'Ukrainiens. Hein. Donc, surtout des gens du sud, de la Novorossiya, parce que c'était des anarchistes, les gens de Makhno. Mais donc, ce monsieur, spontanément, a fait alliance avec les nazis. Il avait déjà été agent de Guillaume II pendant la Première Guerre mondiale. Pour lui, le nazisme, c'était la logique même. Ils avaient les mêmes mythes, lui. Mais il disait qu'il était descendant des Vikings et tout ça. Il voyait le Walhalla partout. Et bien, c'est pareil. Et en 1942, ce monsieur est devenu administrateur de l'Institut Rainer Heydrich, c'est-à-dire de l'organe qui, depuis Prague, était chargé de coordonner, d'appliquer la solution finale de la question juive et tzigane. C'est une des 20 personnes qui a dirigé ça à l'échelle européenne. Alors, il a été obligé de quitter l'Ukraine à ce moment-là, puisqu'il s'est installé à Prague, mais il avait un homme de main qui l'a remplacé sur le terrain, en fait, dès l'arrivée des nazis en Ukraine. Je suis en train d'oublier son nom. Bandera, Stepan Bandera. Donc, quand les nazis sont arrivés en Ukraine, il y a eu des grandes cérémonies où il y a des photos de ça. Vous avez d'un côté des portraits d'Adolf Hitler, d'un autre de Stepan Bandera. Et vous avez les dirigeants nazis et ukrainiens à la tribune. Donc ce Stepan Bandera, après, il a eu des problèmes avec les nazis, mais nous ne savons pas quel problème il a eu. Nous ne le savons que par ce qu'écrivent son groupe. Et ce qu'écrit son groupe ne tient pas la route quand on l'examine. Donc, eux, ils disent que les Allemands avaient renoncé à l'indépendance de l'Ukraine et qu'ils ont arrêté Bandera et ils l'ont mis dans un camp de concentration. Oui, c'est... pauvre histoire. Sauf qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant qu'elle soit finie, les nazis ont libéré Stepan Bandera, l'ont remis à la tête de l'Ukraine et lui ont demandé de massacrer encore tout ce qu'il trouvait comme russe et comme juif chez lui. Donc, ça serait un cas exceptionnel de quelqu'un qui resterait 4 ans, il faut le faire, vivant dans des camps de concentration et qui, au bout de 4 ans, viendrait se battre avec ses bourreaux. Ça paraît un peu bizarre. Ce qui est sûr, c'est qu'il était, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans un camp de concentration à côté de Berlin, là où se trouvent les bureaux de l'administration de la solution finale. Alors, était-il dans un bâtiment ou dans un autre? C'est à vous de décider, personne ne sait. Donc, ce personnage a continué sa vie après la guerre mondiale, grâce aux États-Unis. Les États-Unis sont toujours là pour... C'est le pays de la liberté, quand même. Donc, il est devenu agent de la CIA, installé à Munich, où il a tenu le Radio Free Europe, qui vous explique pourquoi les Soviétiques sont très méchants et pourquoi les États-Unis sont généreux. Au passage, je signale que dans les studios de Radio Free Europe, bon, il devait y avoir plusieurs studios. Hein. Il n'y avait qu'un seul bâtiment, il devait y avoir plusieurs studios. Et probablement, Stepan Bandera ne savait pas que dans le studio d'à côté, où il rentrait tous les jours, mais il devait le croiser, mais il ne savait pas qui c'était, il y avait Saïd Ramadan, qui était à l'époque le chef des Frères musulmans, que les États-Unis et les Britanniques utilisaient pour provoquer la révolte des populations musulmanes en Union soviétique. C'est difficile de trouver autant d'interconnexions entre tous ces gens-là. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou et Volodymyr Zelensky sont des amis. Il y a plein de photos d'eux. Vraiment, ce sont des amis. Ce n'est pas des chefs d'État qui se sont rencontrés. Ce sont des amis. Alors, ça choque quand on dit que Volodymyr Zelensky est allié avec les juifs, qui est allié avec les héritiers de Donsov, mais Donsov était allié avec des juifs, en tout cas avec Jabotinsky, dont le secrétaire particulier était le père de Netanyahou. Donc, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, il est double. D'un côté, nous avons les États-Unis et le Royaume-Uni qui veulent étendre leur domination, même s'ils n'en ont absolument plus les moyens. Leurs armées sont complètement grotesques par rapport aux armées des Russes et des Chinois. Ils n'ont pas changé depuis la fin de la guerre froide. Alors que la Russie et la Chine ont développé des armes fantastiques dont les États-Unis sont extrêmement loin, qu'ils ne peuvent pas affronter. Mais bon. Donc nous avons ce problème d'un côté, d'un empire finissant des Anglo-Saxons, Et nous avons de l'autre côté un problème de groupuscule. Ça n'est pas grand-chose, de quelques groupes, d'individus même, je dirais. Peut-être quelques dizaines de milliers de personnes, mais certainement pas plus, qui essayent d'appliquer une idéologie pour laquelle la vie des autres ne compte pas. Et non seulement la vie des autres ne compte pas, mais ils se sont donnés comme devoir d'assassiner des gens. Voilà. Je ne sais pas si vous aurez des questions, mais...